Sans Contrôle, le podcast 100% excellente.
Loco Pelleros, Pelleros Loco, c'est fabuleux.
Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
Autour de la table... Loïc Folio, West France.
C'est vrai, David.
C'est
vrai. Pierre Arnaud Bayer, Presse Océan.
Yeah! Elle est bonne,
David cette Filippo, West France. Un podcast présenté par. Simon Rongoat, Eat West.
Salut les amis, salut Pierre Arnaud Bar.
Salut Simon, bonjour tout le monde.
Il se murmure que Pab aurait pris sa carte de membre à la Brigade Loire, la BL, qui était juste à côté de toi en tribune Jules Verne dimanche.
Ouais, bah c'est des copains, on s'entend super bien, c'était sympa.
Et tout ça, il communique avec toi, c'est bon, il te parle.
Et depuis notre podcast spécial avec le sociologue Nicolas Orcade vendredi dernier, filez l'écouter, c'est passionnant. Il s'agit du numéro de Sans Contrôle 136, accessible sur toutes les plateformes pour tout savoir du monde ultra. Salut Loïc Folio.
Salut, salut à tous.
Sissoko allait beaucoup mieux depuis quelques matchs. Il apprend que Loïc revient au podcast et il se rate face à Clermont.
Dans les grandes largeurs.
L'influence de Loïc Folio.
Mais c'est pas plutôt
on pourra en parler.
C'est pas plutôt parce que David l'a encensé dans le podcast de la semaine dernière.
C'est peut-être un peu les deux. Salut David Filippo.
Salut.
Dans deux jours, David, c'est la sortie événement d'un podcast exceptionnel consacré à la vie et au destin tragique d'Emiliano Sala. Un peu plus de 50 minutes avec de nombreux témoignages inédits. Un hommage 5 ans après la disparition de l'Argentin. On se fait un petit extrait du podcast pour donner envie.
Vas-y.
Abdoulaye Touré raconte le moment où il apprend de la voix de Nico Palois qu'il y a un problème sur l'avion d'Emiliano Sala.
Je prends mon petit déj et à ce moment-là, je pense que personne n'est au courant à part Nico Palois. On est tous en train de manger et puis à un moment donné, il y a Nico qui vient derrière moi et qui me glisse tout doucement dans l'oreille. Il me dit « Abdou, ne fais pas de gestes brusques. Comme tu sais, Emi, il est parti hier, il est déposé à l'aéroport, il a pris son avion. Depuis hier, il n'y a pas de nouvelles. » Il me dit « Son avion, il a disparu. » Et quand il me dit ça, moi je suis en train de manger, automatiquement je lâche mes couverts. Et quand je lâche mes couverts en me retournant, ça fait du bruit, donc tous les regards se braquent sur moi. Puis moi je me retourne devant Nico, je lui dis « Mais t'es sérieux ?» Il me dit « Ouais, si, y a pas de nouvelles et tout. » Et après, à ce moment-là, il me dit « Je sais pas si t'es en contact avec son agent ou tu le connais bien et tout, si tu peux l'appeler pour lui demander quelques infos. »
Voilà pour l'un des moments forts de ce podcast. Rendez-vous vendredi. Jeudi soir,
on mettra enfin,
sur toutes les plateformes.
Fin de journée.
Ouais, c'est ça. Pour ce podcast Sans Contrôle inédit, 5 ans après la disparition d'Emiliano. Allez, on se remet dans notre débrief de Nantes-Reims et dans l'avant-match entre le FCN et Laval. Salut à toi, le fan des Canaries qui nous écoute.
Je dis jamais, je dis toujours, je dis
Benjamin Biolay.
Et le titre ?
Tu es en cascade, la débandade.
La débandade ?
La débandade.
Tapis rouge au Lyonnais alors, si j'ai bien compris. Oui.
Tuile en cascade, la débandade.
Le Stéphanois, ça ne lui pas là.
C'est pour t'aurais le
faire Mickey 3D. Mais c'est pas grave.
Tu aurais préféré Mickey 3D, non ?
Ouais, exactement.
J'avais envie de passer la débandade. Tout un programme, hein, une débandade. Ce 21e épisode, saison 5 de Sans Contrôle. On va parler de ce FC Nantes battu à la Beaujoire par la Lanterne Rouge Clermont. Est-ce que c'est un petit hold-up des visiteurs ou bien la crise qui s'aggrave pour les Canaries ? Comment expliquer cette défaite ? On parle défense en carton, attaque maladroite, arbitrage défaillant, on étudiera tout ça et puis on évoquera l'association Kadewere Traoré devant, c'était bien ou pas selon vous. Jocelyn Gourvennec, un entraîneur qui tâtonne, qui cherche la bonne formule. Chirivella relégué sur le côté au milieu de terrain, Coco toujours latéral, Merlin aussi, Mollet cette fois en numéro 10, il est baladé d'un poste à l'autre devant. On va essayer de comprendre les choix du coach et leurs conséquences. Enfin, Nantes-Laval samedi, 16e de finale de Coupe de France pour se refaire une santé, voire une épopée, on y a pris goût nous à la Coupe de France ces derniers temps. Ce sera avec ou sans Rémi Descamps, tiens, l'un des débats de ce match-là. Le mercato aura-t-il bougé également ? On évoque enfin l'adversaire, le Stade Lavallois, avec un expert des tangos, l'excellent Cyprien Leger, qu'on aime beaucoup ici. On aura plaisir d'en recevoir les amis, bien sûr.
Qui est passé chez nous.
Allez messieurs, le FCN devra éviter de prendre Laval de travers pour ne pas s'étouffer dès le mois de janvier et retrouver le sourire.
Eh hey, oh, faites pas la gueule, vous êtes contents quand même, non ?
Hey, oh, let's go !
Sans Contrôle.
L'actu des Canaries a une touche de balle.
Le dernier de Ligue 1 qui s'impose à la Beaujoire 2-1 face au FC Nantes. Petit hold-up des visiteurs ou pas, le début d'une crise pour les Canaries. Cette défaite expliquée par l'arbitrage, l'attaque maladroite et la défense en carton.
Ah, Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Oh là 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 là.
C'est
Quoi?
Très très fort.
Tu peux te gueuler?
Attends, tu l'auras soufflé avant.
Non mais c'est un complet, c'est un complet.
Bonnie Tyler.
Et il y a quelqu'un d'autre. Elles sont deux, c'est le duo, non?
Total Eclipse of the Heart. Non, c'est pas ça. Total Eclipse of the Heart.
Turn around. Total Eclipse of the Heart. Okay. Faut être précis, monsieur Folio. Merci, hein, en tout cas.
C'est des années 80, ouais. Les souvenirs se sont évaporés.
Donc, turnaround. À défaut de faire demi-tour, le FC Nantes qui tourne un peu en rond avec ses soucis récurrents qui reviennent. David, pour débriefer Clermont, on a demandé l'avis des auditeurs dans un sondage sur Twitter. À quoi attribuez-vous d'abord cette quatrième défaite consécutive en Ligue 1? On avait fait quatre propositions. L'arbitrage contestable, la défense en carton, l'attaque trop maladroite et le coach qui tâtonne. Les résultats, David?
Bah, le coach qui tâtonne, on en parlera dans la deuxième partie, justement, du coach. 40%, il y a eu 2400 votes, hein, quasiment. Défense en carton, 23%. Arbitrage contestable, 19%. Et attaque trop maladroite, 18%. Donc quand même, 40% des gens estiment que là, c'est Jocelyn Gourvennec qui tâtonne un peu dans ses choix.
On a un petit peu de tout. On va parler de Jocelyn tout à l'heure. Mais les gens nous ont dit qu'on pouvait tout voter. Hein. L'arbitrage contestable, la défense en carton, l'attaque maladroite. Juste avant de rentrer dans le détail de la défense, de l'attaque, de l'arbitrage, est-ce que globalement, selon vous, en quelques mots, Loïc, on va commencer avec toi. Vous êtes d'accord avec moi quand je dis que c'est un petit hold-up, quand même, Clermontois à la Beaujoire 2-1, quand on regarde le scénario de ce match et le jeu produit par les deux équipes?
Bah, on reviendra en détail dessus, mais oui, moi je partage complètement cette idée que c'est un hold-up. Nantes, en fait, n'a pas gagné un match qu'il n'aurait dû jamais perdre, comme dit l'expression.
Excellent.
Bah oui, c'est ça, le nombre d'occasions est incroyable. Après, ça manque évidemment de détermination, de justesse technique tout simplement, voire d'intelligence dans le dernier geste sur ce qui est aspect offensif. Et regardez, Lafond, il n'a pas énormément d'arrêt à faire dans ce match-là.
Quasiment rien.
C'est bien le problème, il ne les fait pas. Hein.
Mais oui, ouais, en revanche, Ndiaye, lui, a eu plusieurs situations à négocier et il l'a bien fait.
Après, David, hold-up ou pas?
Oui, hold-up. On a très, très peu vu. Il y a très peu d'occasions. Ils ont été ultra réalistes, les Clermontois. Et puis, bon, ça fait partie des propositions. C'est très rare que je parle d'arbitrage. Là, sincèrement.
Mais
ça fait partie des explications. J'ai pas dit que c'est la seule explication. Je trouve qu'il y a une défense extrêmement fébrile, une attaque a pas été réaliste, un système. Donc ils ont raison les gens quand ils disent que c'est les quatre propositions et
t'es en train de répéter
aussi
les propositions du sondage.
Non, mais oui, bah je trouve qu'il y a les quatre et ils ont raison quand ils nous disent ça.
Clermont, juste l'adversaire. Pab, s'il te plaît, Clermont.
Extrêmement faible.
Pab, s'il te plaît, c'était d'une faiblesse incroyable, Clermont.
Mais c'était horrible. Mais c'est quand même la pire équipe qu'on ait vue à la Beaujoire. Faut être honnête quand même. Enfin, vous avez vu l'action la première minute là où Mollet il tire sur le gardien et je crois qu'il y a hors-jeu derrière. T'as le défenseur qui tire sur son gardien.
Ils savent pas
comment la dégager. Enfin, cette équipe là, elle était au bout du rouleau. Enfin, avant même que ça commence, et Nantes a pas su appuyer. Tout à l'heure, Loïc dit le gardien a fait les arrêts qu'il fallait faire. C'est tout à fait vrai. Il fait un nombre d'arrêts impressionnant.
Oui,
après, on l'a mis dans des situations confortables.
C'est pas des arrêts, c'est pas des exploits.
Tu leur donnes des cacahuètes à 20 mètres, le gardien il se couche, il fait les arrêts. Il fait un super arrêt, c'est devant Kadewere. Devant Kadewere, il fait un super arrêt du bout du pied. Voilà. Ça, c'est un vrai bon arrêt de gardien. Le reste, il fait les arrêts, il est présent, mais il est pas non plus incroyable.
Nantes avait moyen dimanche d'enfoncer Clermont. Voilà.
Excellent.
Et de prendre 10 points d'avance sur Clermont. Et je pense que Clermont, tu les revoyais jamais. C'était fini.
C'est sûr.
Et là, ils se foutent dans une panade, les Canaries, en perdant.
Mais les gars, j'ai une petite stat, c'est pas une surprise. Hein. J'ai regardé les équipes qui te suivent au classement. À part Lorient, que t'as battu une fois. Donc Clermont, t'as gagné à l'aller, mais là, t'as perdu. Sinon, t'as perdu contre les quatre autres derrière. Hein. T'as perdu contre Toulouse, t'as perdu contre Metz, perdu à Lyon. Et donc, Clermont.
Quoi,
le FCN en crise, on va en parler tout à l'heure. Mais là, on est sur Clermont, hold-up ou pas, le contenu du match.
Oui, c'est hold-up, mais j'ai envie de dire, c'est pas non plus le total braquage, parce que moi, j'ai trouvé qu'il y avait, justement, offensivement, du côté clermontois, c'était relativement pauvre. Par contre, c'était tranchant. Je veux dire, leurs deux buts, ils doivent, le deuxième, c'est un contre fulgurant, tu te fais prendre sur 70 mètres, comme à Lyon.
Les portes quand même.
Comme à Metz.
Après, faut la mettre.
Oui, non, mais d'accord.
Faut la mettre. Et ça, c'est ce que n'a pas réussi à faire l'attaque nantaise, notamment en deuxième période.
Pour moi, c'est pas un hold-up. Hein.
Ah, c'est pas hold-up.
C'est toi, hold-up aussi.
Franchement, sur la production des deux équipes,
c'est un match que Nantes mérite de gagner.
Oui, Nantes mérite de le gagner, mais après.
C'est pas non plus le braquage absolu, en fait.
Et puis, le problème de Nantes, c'est qu'ils sont pas capables, justement, d'enfoncer une équipe comme ça. Donc tu mérites pas de gagner quand t'as ça en fait.
Ce qui est surprenant, c'est un partout. Tu te dis, bon, ça y est, ça va dérouler. Moi, j'ai repensé au match de Pau. Je me suis dit, bon, ils égalisent très vite comme à Pau la semaine dernière en Coupe de France.
Mollet.
Et ils vont faire la différence parce que Nantes est au-dessus, Clermont.
Et ils méritent de faire cette différence.
Voilà,
et vous l'avez pas senti dans la défaite.
Non, au moment de l'expulsion de Benny Traoré, je pense que Nantes va marquer. Alors, l'expulsion change tout dans ce scénario de match parce que tu te retrouves à 10. Mais avant, à ce moment-là, ils ont tant d'occasions et les Clermontois sont si faibles que je pense que Nantes va gagner.
J'ai peut-être des copains qui sont devins. Moi, j'ai reçu pas mal de textos en disant tu la sens venir la défaite.
Ouais, c'est
tu la vois venir. Bah oui, mais tu vois bien, tu tournes autour.
Tu sens venir une défaite quand t'es dominé. Alors, si quand tu surdomines, tu sens aussi venir la défaite, tu la sens venir tout le temps la défaite.
Tu surdomines, mais quelle occasion franche tu as pour marquer.
Allez, on attaque avec la défense, si vous me passez l'expression. Encore 2 buts encaissés par les Canaries. Le comportement défensif de l'équipe et les éléments défensifs en débat. On n'y arrive toujours pas, en tout cas côté nantais, à enchaîner les clean sheets. Écoutez Florent Mollet.
Défensivement, c'est plus possible. Je pense qu'il faut que là, les 11 qui sont sur le terrain, il faut qu'on défende beaucoup mieux. À l'image de Nice sur la première partie de saison, quand vous prenez le moins de buts possible, vous avez beaucoup de chances de gagner des matchs. Si on en prend un ou deux à chaque match, il va falloir marquer 3 ou 2 plus l'adversaire, ça va être compliqué.
C'est plus possible, dit Florent Mollet. Ça veut dire qu'ils ont conscience, les joueurs.
Ah oui, ils ont conscience. Et j'ai vu qu'on lui était tombé dessus à Florent Mollet après ses propos. Il dit bien défendre à 11. Et il faut bien souligner justement cette implication du collectif dans son intégralité parce que effectivement les lacunes défensives elles sont criantes. On le disait tout à l'heure, tu te fais plomber 2 fois en 2 matchs de championnat, donc à Lyon et contre Clermont, le deuxième but clermontois sur des comptes de 70-80 mètres. Ça, c'est rédhibitoire, évidemment. Et moi, je pense aussi que Nantes s'est fait plomber sur ce match-là, donc défensivement, sur le deuxième but.
Oui.
Il y a eu peut-être une forme d'arrogance en se disant eh, c'est clairement en face, c'est bon, on les a ultra dominés. On va peut-être marquer. Ah là, il reste pas beaucoup de temps.
Même à 10 contre 11.
Même à 10 contre 11, on est quand même au-dessus. On va les plomber peut-être sur coup de pied arrêté. Et tu t'ouvres.
Mais pour moi, c'est un mal qui est récurrent à Nantes. Jocelyn Gourvennec n'arrête pas de le répéter. Et Quentin Merlin l'a dit aussi en conférence de presse avant le match. Il dit, on a une équipe quelque part qui est naïve, il veut travailler là-dessus. Alors, il a dit qu'il avait beaucoup travaillé là-dessus aussi pendant le stage. Visiblement, ça n'a pas fonctionné. Mais il dit, en fait, quand on est une équipe de foot, qu'on perd le ballon, il faut savoir dans quelle zone tu peux les perdre, comment tu peux attaquer pour pas mettre en danger ton équipe pour quand tu perds le ballon. Et typiquement, le deuxième but, tous les joueurs l'ont dit et le coach l'a dit après le match. Ils se ruent tous, comme dit Loïc, à l'attaque en disant qu'ils vont marquer.
Sissoko a dézoné. Sissoko est rendu très très loin. Il n'est plus à couvrir sa défense. Non, mais il a donné le nom de Sissoko, Jocelyn Gourvennec.
Voilà. Et derrière, en 2 passes, t'es ouvert complètement. Et en fait, c'est Marcus Coco qui dit ça. Il dit c'est une faute professionnelle. T'as pas le droit de te ruer à l'attaque sans assurer tes arrières derrière. Et ce n'est pas un seul fait de match. C'est un fait d'une saison.
Le coach Gourvennec, et on en parle, David.
C'est une équipe qui continue de prendre des buts. Ça, c'est invariable.
Ouais, c'est vrai. On travaille beaucoup là-dessus, sur notre animation. Je pense qu'après, on doit être beaucoup plus fort, beaucoup plus dur défensivement. On est encore en deçà de ce que ça réclame, parce que ça coûte trop. Il y a l'animation, il y a les principes, comment on défend ensemble. Et après, il y a l'engagement individuel, où en première mi-temps, on a des erreurs individuelles qui nous coûtent un but. Et après, c'est une course-poursuite. Donc, toutes ces choses-là, on les montre, on en parle, on le met en place sur le terrain. Mais il faut qu'à un moment donné, ça prenne forme.
Ouais, il faut que ça prenne forme.
Qui a posé la question. Qu'est-ce que c'était bien vu? Pertinent,
mais David, c'était moi, c'était extraordinaire. David, on nous parle depuis le début de saison d'erreurs individuelles. Est-ce que les meilleurs hommes sont au meilleur poste? Est-ce que Nantes, moi je vois des latéraux, Marcus Coco qui est toujours pas un latéral mais qui est latéral 3 dans une défense à 4, latéral droit. On a Quentin Merlin, j'ai toujours un doute sur le fait que ce soit un latéral, en tout cas qu'il ait des qualités défensives, c'est pareil, il est latéral gauche. Et puis dans l'axe, on avait Palois sur lequel on compte plus ou moins et Tchemer qui fait. Donc en fait, il y a aussi une logique à prendre autant de buts.
Je voulais y venir, vous avez davantage, Loïc et toi, pas parlé de
d'animation.
D'animation, surtout, il fallait défendre collectivement, tous, et vous avez raison de le signaler, mais il y a aussi des défaillances individuelles. Pour moi, dans cette défense, il y a des joueurs qui ne sont pas toujours au niveau. Tu l'as dit, Coco, pour moi, c'est pas un latéral droit. Alors, il a fait parfois de bons matchs, mais plutôt dans une défense à 5, dans un rôle de piston, parce qu'il a le coffre pour répéter les efforts. Il est plutôt intéressant, mais c'est pas un vrai défenseur. Et à sa décharge, il n'a jamais été formé à ce poste de latéral droit.
Et en plus, il a déçu Merlin, en contre-attaquant en mettant des centres au troisième poteau, David.
Voilà, j'aurais aimé aussi qu'on parle des centres de Marcus Coco.
Il a mis des centres au troisième poteau, donc il n'est même pas contre-attaquant.
Qui finissent dans la tribune noire, là, ou en Océane.
Et Merlin, on est finalement un peu sur la même chose. C'est un joueur qui qui n'a jamais été formé à ce poste de latéral gauche. Ça fait maintenant
deux ans
qu'il joue à ce poste. Mais il a des lacunes dans une défense à 4 quand il faut vraiment être un vrai défenseur. Et puis après, moi, je veux parler d'un joueur. On va ouvrir le dossier. C'est Schomert. Je comprends pas. Franchement, autant. J'ai toujours des doutes, quoi. Je le trouve pas serein. Il est toujours à l'arrache. Il est toujours sur un fil. Ce qui est parfois le cas de ton ami Nicolas Palois.
Il fait un bon match, hein.
Qui a tenu la baraque, mais lui aussi, parfois, il est sur un fil. Sauf que lui, il tombe souvent du fil, Schomert. Voilà. Je trouve que c'est de plus en plus compliqué.
Non, mais le problème de Palois, enfin. On sait bien, il est lent aujourd'hui, mais dans la couverture, dans sa manière de couper les passes et dans le duel, il est présent là, oui, contre Clermont.
Oui,
pour moi, il est pas à côté. C'est vrai que Schomert, sur le premier but, moi, il se percute avec Lafont, c'est assez étonnant. Et
alors Merlin se fait avoir d'abord sur un 1-2.
Il voit pas
ce qui se passe.
Non, mais on le voit la veille, Quentin Merlin, et on lui pose la question, dans quel secteur dois-tu progresser davantage défensivement. Et il dit, dans la lecture du jeu, je me fais trop souvent prendre dans mon dos. Bah, 24 heures après, illustration. Bah,
oui. Revenir à Schomert, dans l'axe, donc il se percute avec le défenseur.
Ouais, il se percute avec Alban Lafont, et je rejoins David, mais de toute façon, on l'a dit souvent ici, moi, Schomert, j'ai du mal à le juger, et quand on doit faire les notes, on a du mal à le noter, parce que il est présent, mais effectivement, en fait, je trouve qu'un défenseur, il doit rassurer. Et en fait, c'est ce que tu disais sur Nicolas Palois en disant il est un peu à la limite parce que des fois, tu as l'impression qu'il va être pris dans la profondeur, il va avoir du mal à se retourner, il rentre les épaules. Enfin voilà. Schomert, il est dans le duel, tu as toujours l'impression qu'il est un peu à l'arrache en fait. Donc souvent, ça passe. Souvent, tu le vois pas sur les actions parce qu'il est à côté, pas vraiment là. Mais ça passe pas complètement. Mais c'est moins pire quand même que voilà, qu'un Duverne. Voilà.
Pour Schomert, moi, je pense qu'on a eu du mal à l'évaluer aussi parce qu'il jouait à côté d'un bon Castelletto depuis le début de saison qui masquait peut-être certaines...
Il était bonifié un peu par Castelletto.
Mais ça, on peut en parler de l'absence de Castelletto qui joue aussi quand même. C'est quand même le patron de la défense.
Oui, oui, forcément.
Et pour revenir, je vais refaire ton truc sur souvent la défense à 3 à 4. C'est que tu vois bien que de toute façon, on va peut-être en parler dans la deuxième partie du podcast, mais... Tactiquement, tu es un coup à 3, un coup à 4. Effectivement, tu as des gens qui sont pas à leur poste. Un coup, c'est Duverne. Un coup, c'est Coco. Enfin, tu vois bien que ça change énormément les hommes. Alors, quand Amalin nous a dit avant le match, ça change rien parce que tout le monde est professionnel. Machin. Enfin, à un moment, tu manques aussi d'automatisme, de repères par rapport à ton coéquipier à côté. Enfin, je pense que ça joue aussi de ne pas avoir toujours les mêmes hommes.
Trois occasions pour Clermont, deux buts hein, en gros dans ce match-là. Trois situations, deux buts. Alban Lafont, pas impérial, pas décisif sur ce match-là. On en dit un mot ou pas ? Parce que finalement, la seule victoire de Gourvennec, c'est face à Nice, avec un Alban Lafont qui avait fait un match incroyable. Là, il n'a pas rapporté de points.
Mais on lui avait posé la question, Alban Lafont. Lafont, il a bien voulu nous parler en conférence de presse. Il a dit, est-ce qu'il différencie un bon gardien d'un très grand gardien ? Il te rapporte des points. Il fait les arrêts qui rapportent des points. Il ne les a pas fait. Voilà, on ne peut pas lui imputer les buts. Hein. Je ne veux pas lui imputer.
Non, c'est pour ça que je ne dis pas impérial. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'est pas décisif.
Mais il fait pas l'arrêt qui te sauve comme il le fait pas à Lyon et voilà c'est.
Il est pas impérial mais il est impliqué quand même sur les buts Alban Lafont non.
Le premier plus hein.
Et le deuxième et
oui,
aussi.
Oui mais même le deuxième
c'est la main.
La main est pas ferme.
Il y touche au ballon
après,
et il est fleur, de fermeté.
Vous êtes un peu plus dur que Pab et moi alors.
Moi je suis plus dur. D'ailleurs je l'ai noté plus durement si l'autre jour on avait eu un débat sur les notes.
Vous avez mis combien tous les deux?
Moi j'ai mis 3,5 je crois à la fin.
Et Pab t'as mis combien dans Presse Océan?
5. Tu as mis la moyenne.
Ouais. 3,5 et ça fait une différence quand même. Toi, tu trouves que son match était très décevant.
4, j'ai dû
non, c'est,
4,
entre, ouais. C'est entre 4 et 5. Selon que tu juges, c'est exactement le débat. Selon que tu juges sa responsabilité, par exemple, sur la frappe du deuxième but.
Il n'y a pas de
moi,
faute
il
demain.
Peut pas faire grand-chose.
Il n'y a pas de faute demain. Si vous voyez une faute demain,
Et moi, ouais, je suis moins convaincu.
Pas bien vu le ralenti.
Je suis moins convaincu. Je pense, je le trouve pas assez autoritaire sur le premier but. Et pas décisif, évidemment, sur le deuxième. Même si les deux sont des œuvres collectives. On a parlé de Merlin,
oui,
mais on peut revenir sur le premier. Sissoko qui défend
Sissoko
pas non plus.
On a dit Sissoko qui dézone.
Sissoko sur le deuxième, mais sur le premier, il défend quand même
le
trou.
Problème,
on est loin, on est très loin du porteur du ballon et des solutions proposées
et
par
t'as
les
droits. Et ils ont trois occasions, ils marquent deux buts. T'as le droit d'être rattrapé par un copain. Et en fait, personne ne rattrape personne sur ces occasions-là. Palois, il est blessé dans la surface de réparation. Sur le deuxième but, il se replace à peine.
Merlin, il revient, il est à l'agonie.
Oh là là. Ouais.
Mais ça, Nicolas Palois, il nous l'a dit après le match. Il dit, en fait, il y a une sorte, mais plusieurs joueurs l'ont déjà dit en zone mixte après les matchs, t'as une sensation de naïveté. Alors, tu parlais tout à l'heure peut-être de suffisance ou de sentiment de supériorité.
Oh oui, je pense. Ouais.
Moi, je pense aussi de la naïveté. Nicolas Palois, il le dit, t'as un joueur défenseur central qui est blessé dans sa surface de réparation, qui est au sol. Et Nicolas Palois, c'est pas le genre de joueur qui simule. Il dit, dans ce cas, les gars, quand vous êtes sur le point de perdre le ballon, sortez-le. sortez-le le ballon. Parce que là, en fait,
et prends le match nul.
La situation, elle est bizarre. T'as Alban Lafont qui le relève, qui le pousse en avant en disant va couvrir tes partenaires. Et en fait, le ballon revient à ce moment-là. Ouais. Il est à la ramasse. En plus,
la défense doit est désorganisée. Les attaquants. On passe aux attaquants qui sont maladroits. En tout cas, pas suffisamment décisifs. Mollet marque un but, mais il a beaucoup d'opportunités. Traoré et Kadewere, vous les avez trouvés comment, les deux? Je trouve qu'ils ont montré des choses quand même dans leur association devant. C'est pas si mal.
Moi, j'aime bien Kadewere, surtout. Je trouve que techniquement et dans la vision du jeu, ce qu'il veut faire et la réalisation, c'est bon. Et en fait, il n'y a pas tant de joueurs que ça qui sont capables de le faire à Nantes. Donc,
Il n'y a pas de déchets dans son jeu, dans sa conduite de balle, dans ses crochets, dans ses frappes. C'est souvent juste. Exactement, c'est juste.
Et puis avec ces deux joueurs, je trouve que Nantes a gagné en vitesse. On a vu aussi
en
profondeur. Vous avez beaucoup parlé de Kadewere, mais à un moment il y a une belle accélération de Traoré.
Ouais, il fait la passe décisive aussi. Hein,
exactement. C'est là où il donne justement à Kadewere qui y a un bel arrêt aussi du gardien. Il y a un gardien en face, donc ces deux attaquants vont faire du bien et il va y avoir une vraie concurrence devant quand Simon et Mostafa Mohamed.
Ils n'ont quand même pas fait la décision alors qu'on l'attendait. Et je ne parle pas simplement de ces deux-là, je parle de Mollet, je parle de Bamba. Enfin, ils ont été
c'est
plusieurs.
C'est plus Mollet qui a eu des occasions.
Bah, Bamba aussi, ils ont eu plusieurs occasions.
Au moins,
notamment sur un service de Mollet. Mais Mollet, il marque un but. Il est là. Il est souvent à la réception. Il est souvent à l'entrée de la surface de réparation sur les zones de récupération. Là, il est aussi à la conclusion. Il donne un super ballon à un moment en retrait à Bamba. Mais pour le reste. Aïe.
Il a 8 occasions franches.
Mais franchement, c'est frappe, 8. mais c'est pas possible.
Il a 8 tirs francs.
À un moment, il a une passe en retrait, je sais plus qui lui met le ballon
en
retrait. Douglas Augusto. Il a tout le temps au moins de cadrer à minima. Il attrape pas.
Il l'a reconnu après le match.
Il n'est pas assez buteur.
Mais franchement,
c'est une des plus grosses occasions
nantaises finalement, cette frappe.
Pour moi, il y a aussi peut-être un problème d'organisation. C'est un débat qu'on avait à la rédaction de Presse Océan après le match. C'est de savoir. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas d'avoir mis autant donné les clés du camion à Mollet?
Parlons-en tout à l'heure, ce rôle de Mollet en 10 dans la deuxième partie.
C'est bien que tu maîtrises un peu le
Jocelyn
programme du podcast.
C'est moi qui l'ai fait le programme.
Mollet, on va l'écouter à propos des pénaltys, parce qu'il y a quand même un arbitrage contestable sur ce match-là. Deux pénaltys oubliés pour les Nantais ou pas, Florent Mollet?
Moi, je pense sincèrement, quand je tombe personnellement, je pense qu'il y a pénalty. C'est sûr dans ma tête qu'il y a pénalty. C'est pas possible qu'il n'y ait pas pénalty sur un contact comme ça. Vu le contact que j'ai eu, comment ça m'a fait mal, je pense que si je saigne, il y a pénalty. Donc maintenant, il faut trouver un juste milieu. Mais aujourd'hui, on revoit l'action. Il me dit qu'il prend le ballon en premier. Pas du tout. Justement, il passe à côté du ballon. C'est moi qui touche en premier. C'est ensuite, il vient avec son coude me heurter l'oreille. Ça va beaucoup plus faire de dégâts. Parce que, encore, ça va. Je voyais un peu flou, mais ça a été. Déjà, je pense qu'il y a un premier pénalty ici. Et la main, je pense qu'elle est décollée. Donc voilà, je pense que. Pour moi, il y a deux pénaltys, mais aujourd'hui, ce soir, c'est passé. On a perdu le match.
Ils ont perdu le match et ça aurait pu influencer le résultat quand même. Le premier, on est tous d'accord, David, c'est péno, c'est coup de coude en fait. J'ai vu que tu as été contesté sur les réseaux sociaux sur cette question d'arbitrage. Mollet touche le ballon de la tête, le gardien ensuite, et puis ensuite, coup de coude sur la tête de Mollet.
Il y a quelqu'un qui me dit, que le gardien a touché le ballon.
Non.
Si
tu découpes l'adversaire après avoir touché le ballon, c'est une faute.
Traoré, dans ce cas-là, tu mets pas le rouge à Traoré.
Benny Traoré, même chose, il touche d'abord le ballon,
Mais il n'y a pas de règle, tu touches le ballon, il n'y a pas faute, ça n'existe pas dans le football.
J'ai pas compris.
C'est l'excès d'engagement qui peut être signalé, et là, franchement, il y a un jeu dangereux.
Oui, évidemment. Il emmène tout, il emmène Mollet avait un stigmate, il avait une belle coupure au niveau de l'oreille. Et moi, je suis d'accord quand il dit s'il saigne, s'il a vraiment.
Pourquoi il reste pas au sol?
Il est resté au sol.
Il faut rester 5 minutes au sol. Bah oui, tu restes 5 minutes, l'arbitre, du coup, avant d'avoir les images dans le camion à la VAR.
Non, mais c'est le VAR qui n'a pas appelé l'arbitre central. L'arbitre central, lui.
Oui, mais tu leur mets le doute, le VAR, parce que si tu restes au sol 5 minutes, ils vont revoir les images et revoir les images et revoir les images et dire, il y a peut-être quelque chose. Et ensuite.
Je sais pas.
Bah, je sais pas.
Parce qu'il est resté un peu au sol, ça a duré quelques minutes, donc je suis pas sûr qu'en restant 3 minutes de plus, ça aurait changé grand chose.
C'est hallucinant que ce pénalty n'ait pas été sifflé.
Pour moi, personnellement, il y a pénalty. Après, est-ce que c'est flagrant ou pas? Je trouve que c'est un peu compliqué. Parce qu'on a tous eu le débat. Mais David, je sais que tu lèves les épaules. L'arbitre déjà n'a pas sifflé.
Et il va pas voir la VAR.
Moi, c'est ça qui m'embête. Ce qui m'embête, c'est qu'il aille pas vérifier. Parce que typiquement.
Mais il a pas été appelé. Il va pas aller vérifier. Il est pas appelé.
Mais il a le droit aussi de dire j'ai un mec qui est par terre.
La VAR de l'appeler. Hein.
C'est pas lui qui dit attendez, vous êtes sûr, vous voulez pas que j'aille voir l'écran. Non, c'est le VAR qui l'appelle.
Mollet, il est par terre. Il voit bien qu'il y a eu un contact avec le gardien. Il a le droit de dire attendez, les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais aller voir. Sur la main, typiquement, Il va voir la VAR, on est d'accord, pas d'accord. Moi, j'estime encore personnellement qu'il y a pénalty, mais l'arbitre va voir les images et il juge en son âme et conscience qu'il n'y a pas pénalty. Ok, là, le problème, c'est qu'il ne va pas voir les images. Et moi, c'est toujours le problème avec les arbitres. Quand tu as une situation litigieuse, va checker. Après, tu prends ta décision, quelle qu'elle soit, tu as pris ta décision, tu peux rien dire.
La vérité, c'est que comme le football est arbitré actuellement, il y a tous les jours pénalty sur le coup de coude et sur la main, c'est une fois sur deux, selon la volonté du mec dans la VAR.
Je serais moins catégorique sur la main.
Non, mais elle est sifflable, hein, cette main, complètement. Mais
pour moi, il y a un pénalty pour Nantes qui est évident. Effectivement, c'est le. Enfin, l'autre, pour moi, il n'y a pas pénalty.
Ouais, tu vois, on n'est pas d'accord.
On rappelle quand même, c'est important, pénalty, c'est pas but.
Non, non, bien sûr. Bien sûr.
Non, parce que tout le monde dit.
Le scénario n'est pas le même quand même.
Nantes, on en sait.
Non, mais ça peut être. Attention, sur le gardien, ça peut être pénalty et rouge. Hein. Si la sortie, elle est considérée coup de coude dans la tête et tout.
Moi, je pense que ça peut donner rouge.
Eh ouais, ça peut donner rouge. Gourvennec sur l'arbitrage.
Le carton rouge de Benny, j'ai pas grand chose à dire. Il maîtrise pas son geste. Son pied finit sur le tibia. Il applique le règlement. Donc ça me paraît logique. En revanche, il y a deux pénaltys en première mi-temps. D'abord sur Flo Mollet, avec Ndiaye qui rate sa sortie et qui arrache tout. C'est Flo Mollet qui touche d'abord le ballon, contrairement à ce que le quatrième arbitre m'a dit. Il maîtrise pas du tout sa sortie, mais le coup dans la tête de l'adversaire, c'est pénalty. Enfin, je comprends même pas qu'on soit à discuter de ça. Et puis, il y a un deuxième pénalty sur la main de Boutoba parce que il emmène le ballon avec lui, il change la trajectoire du ballon, il maîtrise pas son geste, il maîtrise pas son intervention défensive et c'est pénalty. Il y a des choses que je ne comprends pas, je peux que les déplorer parce que ça a une incidence. On a offert, nous, la victoire à Clermont sur un plateau, mais il y a eu des décisions contraires, des faits de jeu qui nous sont défavorables et ça a une grosse incidence.
On a offert la victoire à Clermont sur un plateau, donc c'est pas l'arbitrage qui est en cause principalement, mais voilà ce que dit Gourvennec, je trouve plutôt juste dans son analyse. On va clore ce chapitre arbitrage.
Le club quand même a envoyé hier un email à la DTA, la direction technique de l'arbitrage, donc c'est Gauthier Lannoy. Le club a fait part de son incompréhension vis-à-vis de ces deux décisions et le club veut des explications. Donc comme Lannoy, je crois, l'a fait vis-à-vis du match Le Havre-Lyon, hein, je crois que c'est Stéphane Lannoy qui s'exprime, le club demande des explications à la direction technique de l'arbitrage.
Ce qui pourrait changer beaucoup de choses. Non, rien du tout.
Non, 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 ça changera rien.
Non, mais t'auras des explications et diront, voilà, est terminé. Oui, merci, mais on passe à autre chose. Ça met la pression pour les prochains arbitres qui s'occuperont du FC Nantes.
Et je pense que le FC Nantes est content que ça sorte dans la presse parce que, voilà, la France du foot va le savoir et voilà.
Allez, les choix de Jocelyn Gourvennec, la compo, on y vient.
David Philippot, Pierre Arnaud Barre, Simon Rongoat, Loïc Folio. Sans contrôle.
L'actu des Canaries a une touche de balle.
Jocelyn Gourvennec, un entraîneur qui cherche la bonne formule. Chirivé l'a relégué sur un côté, au milieu de terrain, à droite. Coco toujours latéral, Merlin aussi. Mollet baladé d'un poste à l'autre devant. Et numéro 10, est-ce que c'est sa vraie position préférentielle? On va essayer de comprendre les choix du coach et leurs conséquences.
Le bon choix. C'est
un scandale. Non, faut que je raconte encore les coulisses. Il a le moniteur avec les résultats. C'est une honte, je la dénonce.
Mais pourquoi tu me balances, toi?
Bah parce que.
Ah, mais pourquoi
tu
me balances?
Mais parce que t'es même pas crédible.
Mais oui, t'es pas crédible.
Et comme c'est écrit le bon choix, tu sais même pas de qui c'est. C'est de qui?
Je sais pas. Mais honte. De Leslie.
Mais pourquoi tu me balances comme ça?
Le bon choix.
Tu devais être une enflure à l'école, toi.
Ah oui, ça, c'est sûr.
Non, mais déjà, je la suis toujours. Mais. Leslie Sartoise, hein, quand même.
Faire le bon choix de compo, de joueurs, de dispositifs, c'est tout le problème auquel est confronté Jocelyn Gourvennec, qui avait opté pour un 4-4-2 d'entrée avec Pedro Chirivella à droite. Écoutez le coach nantais sur ce choix.
Dans notre animation, avec position pour fermer le côté droit sur le plan défensif, et après dans la construction pour nous apporter de la largeur dans un premier temps, qu'on puisse le toucher et qu'il nous apporte sa qualité de passe et sa vista pour donner des ballons dans la profondeur à Benny et à Tino. Bon, c'était une option. On a inversé le processus en deuxième mi-temps en bloquant Quentin et en offrant la largeur à gauche à Kader Bamba, qui a apporté sa capacité d'élimination, sa capacité à dribbler, à centrer. Il a apporté ça en deuxième mi-temps.
Dans ta recherche d'organisation optimale, justement, qu'est-ce que tu as préféré? C'est ce dispositif de début de seconde période? C'est ce qui a le mieux fonctionné?
Oui, mais on était reparti de notre deuxième mi-temps de peau. Après, dans l'animation, c'est toujours fonction des joueurs qu'on a sur le terrain. Kader Bamba est plus à l'aise sur un côté qu'à l'intérieur, donc à l'inverse de Pedro. Donc il y a des équilibres à trouver entre le profil de nos joueurs, entre l'adversaire aussi et l'organisation de l'adversaire.
Oui, ça dépend de beaucoup de choses, nous dit Jocelyn Gourvennec, mais j'ai le sentiment que ça fait deux fois qu'il tâtonne. C'est d'ailleurs ce qu'ont privilégié les twittos dans leur réponse à notre sondage. C'est Gourvennec qui n'arrive pas à trouver la bonne formule, nous le disent-ils à plus de 40%. À Pau, souvenez-vous, il avait mis une mi-temps avant de trouver la bonne formule. Et là, c'est la deuxième fois, Pab.
C'est pas deux fois, c'est trois fois. Dernier match à Lyon, il fait deux changements, je crois, à la mi-temps. Et tu vois bien qu'il tâtonne, mais on en a parlé tout à l'heure sur la défense entre les différences de système, les différences d'hommes. Tu vois bien, devant, c'est un peu pareil. Pedro Chirivella à droite, moi, je me pose quand même une grosse question. Il a dit, je crois, au micro de Prime Vidéo que c'est la première fois qu'il jouait là, qu'il était bon, évidemment en service de l'équipe, mais il n'avait pas l'air très satisfait.
Oui, bah, fallait lire ça entre les lignes, à travers sa déclaration.
Mais ça se voit quand même. Enfin, on sait que Pedro Chirivella, pour moi, c'est un joueur d'axe. Alors, je ne veux surtout pas, je ne suis pas technicien, et Jocelyn Gourvennec a expliqué qu'il voulait apporter une possibilité de passe en profondeur pour Benny Traoré, mais on ne l'a pas vu.
Non, il a envie de faire jouer les trois. La vérité, c'est qu'il a envie de faire jouer les trois.
Exactement.
Et Sissoko, et Douglas Augusto, et Chirivella.
Et on a l'impression qu'il ne veut pas sortir Sissoko.
Pour moi,
et donc
sur les
tu
trois,
peux pas sortir Douglas Augusto.
Sur les trois, il y en a un de trop. Ni Douglas Augusto, ni Pedro Chirivella.
Et ça dépend, ils ont déjà joué à trois. Ils ont déjà joué à trois avec Douglas Augusto en sentinelle et Sissoko et Chirivella devant en relayeur dans un milieu à trois. Sauf qu'en fait, là, c'est pas le cas. Il a décidé de jouer avec deux milieux
défensifs.
Oui,
mais ça, c'est quand tu joues à trois derrière, voilà. Pab.
Tu peux jouer en 4-3-3. Tu peux jouer en 4-3-3.
Donc, t'as personne sur les côtés, là, dans ton 4-3-3. Hein.
Bah, t'as des ailiers.
Et donc, tu sors mollet.
Bah, où tu mets mollet sur un côté comme le faisait jouer Pierre Aristouille.
Ah, donc un joueur qui à nouveau pas à son
poste. Mais non, mais c'est un autre problème. Non, mais on est d'accord, cette équipe est déséquilibrée. On le sait depuis le début.
Tu reviens au déséquilibre de base.
Elle est déséquilibrée, mais n'empêche que...
Mais t'as pris Traoré et Kadewere pour justement peut-être... Ce sont des joueurs qui sont susceptibles de jouer sur un côté, les deux. Dans l'axe,
il faut juste trancher, faire des choix à la place de Gourvennec, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils mettent soit un Sissoko, soit un Chirivella sur le banc. Bah, faut le faire. Il n'y a pas le choix.
Non, mais ils n'ont pas le même profil après. Sissoko, c'est vraiment le côté.
Le match qu'il a fait samedi.
Oui.
Franchement, dimanche, c'est pas déconnant de le sortir.
Le choix sera peut-être facilité.
Donc, il met Douglas Augusto dans un 4-2. Il met Douglas Augusto ou 4-3-3.
Et Pedro.
Et Pedro, il met Mollet et il met trois offensifs. Voilà, ça me semble assez limpide.
Perso, c'est ce que je ferais. Après,
je suis pas technicien, comme tu dis.
Voilà. Oui, ça, on le sert.
Et Moussa Sissoko et Pedro Chirivella n'ont pas du tout le même profil. Sissoko a plus un profil de récupérateur physique. Éventuellement d'aller gratter les ballons.
Non,
là où il a été bon sur le dernier match,
c'est possible de le faire, ça, Pab.
Pedro Chirivella est quand même beaucoup plus technique et beaucoup moins physique que Sissoko.
Oui, d'accord, mais quand tu mets Chirivella et Douglas Augusto, c'est Douglas Augusto qui va avoir ce rôle physique et Chirivella distribution. Oui. Et quand c'est Sissoko, ça s'inverse un peu, mais enfin, tu t'organises. Pour moi, vouloir faire jouer les trois, c'est le souci qu'il a rencontré et il s'est bien rendu compte qu'avec Bamba, un élément offensif supplémentaire, il avait rééquilibré son équipe.
Un vrai joueur de couloir.
À la sortie de Pedro Chirivella. Petite parenthèse, Chirivella, il était malade. A priori, il avait le Covid. Il a joué en dépit de sa maladie. Est-ce que ça vous choque? On se souvient Castel Leto avait déjà joué alors qu'il était malade il y a quelques rencontres. Et puis j'ai appris après le match, petite info en plus, que Schumert et Douglas Augusto étaient également
les trois
touchés.
Alors Douglas, il avait juste un rhume.
Voilà, bon, et puis ça arrive que des joueurs peuvent jouer malades. Mais bon, ça n'a pas facilité les choses. Un mot là-dessus, qui veut réagir?
Mais moi, j'étais plus embêté lorsque j'avais su que Castelletto avait été, je crois, malade toute la nuit. C'était contre
Brest.
Il n'avait pas dormi de la nuit. Alors bon, le coach demande aux joueurs, est-ce que tu te sens de jouer? En gros, voilà, ce sont des joueurs qui sont quand même importants, des cadres.
Puis qui se connaissent quand même.
Voilà, là, pour le cas de Covid, pour Chirivella, bon, si le joueur, il avait juste un petit rhume, mais il avait bien dormi et tout. Bon. Mais c'est vrai que ça fait deux fois, on se pose des questions. On a le droit de se poser des questions. Bah,
c'est ton capitaine, tu veux pas t'en passer. Je pense que
moi, je trouve que de parler de son Covid, ça enlève le débat l'avoir mis sur le côté.
Perso. C'est les deux.
Parce que s'il sort à la mi-temps, parce que pour moi, s'il sort à la mi-temps en étant à son poste habituel, on dit OK, Pedro Chirivella est sorti à la mi-temps parce qu'il est malade. Moi, je peux pas, au regard de sa première mi-temps, du FC Nantes face à Clermont, quand il sort. Tu peux te dire, il sort aussi peut-être parce qu'il n'est pas à son poste.
Autre voilà. casse-tête pour Jocelyn Gourvennec, on avance, messieurs, c'est Florent Mollet. Florent Mollet, positionné cette fois en numéro 10, alors il a été trimballé hein, à différents postes au milieu et devant, sur le côté droit, comme un faux ailier droit qui se recentrait beaucoup. Il aime bien ce poste-là, il l'a dit, Florent Mollet, après la rencontre.
J'étais derrière Benny, j'étais avec Benny. C'est un rôle que j'aime bien, parce que je peux toucher des ballons, surtout dans les zones décisives. Numéro 10, mais pas trop sur les côtés. Je laissais quand même les côtés aux joueurs qui étaient, parce que c'était la consigne du coach, faut pas qu'on se marche dessus aussi. Mais c'est un rôle que j'aime bien. Maintenant, voilà. J'ai pêché un peu, j'ai marqué ce but, mais je vais rentrer chez moi, ok, j'ai marqué, mais c'est pas suffisant. J'ai eu quelques occasions où je dois faire le geste plus juste pour marquer, ou je dois faire le geste plus juste pour donner. C'est un mea culpa à faire, mais c'est comme ça que je sais qu'individuellement je vais avancer et que la prochaine fois je ferai peut-être le geste meilleur.
Est-ce que c'est son meilleur poste à Florent Mollet, celui de 10? Ça lui permet en tout cas d'être très influent et de se retrouver très souvent devant le but. Il a eu beaucoup de situations, David.
Bah oui, on le savait avant qu'il n'arrive. C'est à Montpellier, c'est ce poste qu'il occupait, c'est son poste. Je l'avais rencontré cet été, il m'avait dit c'était Pierre Aristouille à l'époque. Il m'avait dit moi, ce que j'aime, c'est jouer 10 derrière les attaquants, mais pas sur un côté. Donc,
et de toute façon, quand il joue
poste,
sur le côté,
oui.
qu'est-ce qu'il fait?
Ben, il revient dans
l'axe. Rentre.
Ben,
il se recentre.
Ben, il rentre, ben, oui. il joue intérieur. Donc, effectivement, il a plus de prédisposition pour évoluer à ce poste-là. C'est pas un joueur qui va prendre la profondeur. C'est pas un joueur qui va provoquer, percuter, éliminer.
Par contre,
il peut donner des bons ballons.
Ouais, et puis il a une capacité
quand il lève
de
la tête.
Pressing.
Quand il lève la tête.
Oui, il a des coffres.
Il a une belle capacité de pressing. Mmh. Moi je l'avais trouvé.
Il est tout le temps dans les 25 mètres, là. Il est...
Oui. Moi, j'avais trouvé intéressant dans ce rôle de faux ailier qui est recentré. Là, il avait fait quand même quelques bons matchs lorsque Nantes était dans une bonne phase.
Notamment par sa capacité, Pab, à dézoner et à se mettre entre les lignes adverses. Et c'est ce que nous expliquait Aristouille, c'est-à-dire qu'il déséquilibrait la défense adverse en venant perturber les schémas de passe.
Et il justifiait la titularisation de Moussa Sissoko pour compenser justement... Les déplacements de Florent Mollet. Après là sur le match de Clermont, Florent Mollet dans l'axe, il a été hyper influent. Moi après je me pose la question, ce que je disais tout à l'heure, est-ce que c'est à lui qu'il fallait donner à ce point les clés du camion? Je l'ai trouvé presque trop influent, tout en étant pas assez décisif. Je trouve que finalement le placement de Florent Mollet, on a moins vu Kadewere qui était un peu sur un côté, moins vu Benny Traoré. J'ai l'impression qu'ils avaient du mal tous à se placer. Ce qui donne cette impression de schéma expérimental et d'entraîneur qui cherche la bonne formule.
C'est le casse-tête pour Gourvennec de faire jouer et Chirivella, et Mollet, et Sissoko, tous ces milieux de terrain.
Et encore, t'as pas Moses Simon, Mohamed qui sont.
Ouais, ça va être un sacré souci, mais il faut qu'il trouve la bonne formule, l'entraîneur nantais, parce que c'est le premier entraîneur à faire 4 défaites sur ses 5 premiers matchs sur le banc des Canaries dans l'histoire du FC Nantes.
Bien serré depuis 2019.
Voilà, c'est quand même impressionnant. Il est même contesté en tribune. Vous avez entendu les supporters chanter le nom de Pierre Aristouille. Le FC Nantes s'enfonce doucement dans la crise et le club et son entraîneur. Avec cette série pour l'entraîneur et puis la série pour le club, c'est une victoire sur les 9 derniers matchs.
Il y a ce qui est terrible pour Jocelyn Gourvennec. Pardon, il y a une petite stat opta qui est sortie. C'est le premier entraîneur à connaître sa 100e défaite. Il l'a connu lors de son 241e match. C'est l'entraîneur le plus rapide à atteindre ce total depuis l'Aslo Bologna en février 2011.
Oui, en difficulté Gourvennec. Loïc.
Ouais, le paradoxe, c'est qu'effectivement, il a cette stat-là qui arrive après un match que le FC Nantes a plutôt maîtrisé, qui tend à accréditer quand même l'idée. Ça demande confirmation, mais plutôt d'une progression quelque part dans le jeu, dans l'expression collective. Encore une fois, c'est très précaire, très fragile.
Lui le dit, il dit on progresse.
J'ai l'impression aussi sur ce match-là, la défaite, on peut pas dire qu'elle soit totalement méritée non plus pour le FC Nantes. On en a beaucoup parlé dans la première partie de cette émission.
Mais il a corrigé quand même deux fois en deuxième mi-temps.
Il a corrigé, la marge de progression, elle est aussi peut-être pour le coach, même probablement. Pour Pierre Aristouille, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a effectivement une sorte d'affect qu'avaient notamment les supporters les plus actifs pour cet entraîneur par rapport à tout ce qu'il représentait. Et c'est encore aussi une fois une réaction par rapport à une décision du clan Kita qui a encore changé d'entraîneur en cours de saison.
Et la justification, parce que quand Franck Kita il est à la présentation de Jocelyn Gourvennec, il dit je l'ai pris parce que j'ai besoin de me rassurer.
Ouais,
et je ne veux pas vivre une fin de saison aussi stressante que l'année dernière.
Je ne sais pas s'il est rassuré, parce qu'il y a 4 défaites en 5 matchs. Là,
Pierre Aristouille, moi je veux bien qu'on chante Pierre Aristouille, là, j'ai entendu, je vois sur les réseaux sociaux, il faut qu'il revienne et tout. On va encore se répéter, il y avait des mauvais résultats à l'époque. Nantes était mieux classé, je l'entends. Nantes avait fait d'excellents matchs, on l'a tous dit.
Il n'a pas survécu à 3 défaites d'affilée.
Oui, ça, il n'y a pas de souci. Mais on se répète et on va pas le dire à chaque podcast, il y a des joueurs dans le vestiaire, et là c'est pour ça qu'eux il va falloir qu'ils prennent leur responsabilité à un moment, les joueurs, il y a des joueurs qui ne voulaient plus de Pierre Aristouille.
Voilà. Qui l'ont lâché.
Faut le dire. Non, mais ouais. On va pas le répéter toujours sur les réseaux sociaux, parce que je vois des comptes qui arrêtent pas de mettre à, faut qu'ils reviennent. Non, il y a des joueurs qui n'en voulaient pas. J'ai pas dit tous les joueurs, mais, et des titulaires, pas que des remplaçants.
Enfin, ça
c'est important.
Pas, hein.
C'est important.
Oui, ça mais ça suffit pas. C'est-à-dire qu'à un moment, tu peux aussi soutenir ton coach quand t'es à la direction et dire, ce sera lui, et jusqu'à la fin de saison, si vous êtes pas content, oui, c'est vous qui partez.
Il y avait des cadres qui n'en voulaient plus. Il y avait
non mais j'ai compris.
Oui, non mais je peux. Voilà. Je pensais que t'avais pas compris toi aussi. Il y en a qui mettent du temps à imprimer ça en fait.
Mais c'est pas suffisant comme explication. C'est pour ça.
Et j'ai lu aussi, on avait enfin un coach. J'ai rien contre Pierre parce que franchement, je me répète, on avait vraiment vu du foot pendant cette période. Il y a quelqu'un qui a mis l'autre jour, enfin quelqu'un qui représentait l'ADN du club. Faut rappeler juste que Pierre Aristouille ne parlait plus aux mecs de la formation. Voilà. C'était terminé, c'était la rupture totale avec la formation.
Oui, oui. Non, mais évidemment, non, mais c'était, c'est plus bien compliqué. C'était plus compliqué.
Ça m'agace un peu.
On a envie de raconter des choses passées derrière. Revenons à Jocelyn Gourvennec, parce que c'est un coach qui peut être rapidement en danger ou pas. Est-ce que Nantes est déjà en crise pour vous? On avait dit que Clermont, c'était un match hyper important dans ce qu'allait être la deuxième partie de saison. Derrière, il y a déplacement à Reims. En Ligue 1, il y a le match de Laval, mais déplacement à Reims, réception du Racing Club de Lens. La série.
Et réception de Paris, je crois.
La série, attention.
Toulouse et Paris.
Ouais, Toulouse.
Ouais, mais poser la question, c'est déjà y répondre. Ouais, quand on connaît la direction de ce club, tout simplement, on sait très bien que Pab rappelait l'angoisse de Franck Kita qui a conduit à l'éviction de Pierre Aristouille et la nomination de Jocelyn Gourvennec pour se rassurer, encore une fois. Donc ça veut dire qu'ils sont capables, mais on le sait, on ne le découvre pas d'aujourd'hui, d'appuyer sur le bouton à n'importe quel moment. Dès que ça va trembler un peu, dès qu'on va.
Ça tremble déjà, Loïc, là.
Ouais, ça tremble déjà. Ben oui, on est en train de regarder le classement, le calendrier du côté de la direction. On se dit waouh, on n'est pas prêt de prendre des
sites. Oui, puis t'as quand même une petite similitude avec la saison dernière qui est que ce que je disais tout à l'heure, que tu ne bats pas des adversaires directs. Et la saison dernière, on a passé la saison avec un David qui était super optimiste. Non, on va se
maintenir. J'étais pas le seul, je crois.
Les gars,
non, moi aussi, je disais que ça allait passer.
Non, c'est maintenu ou pas
comment, ouais. Oui, t'as vu comment
okay. Miraculeusement.
Tu te souviens comment ou pas,
totale
David
maîtrise, hein, si tu revois le dernier match contre Angers.
Depuis
c'était
les deux
prévu,
dans le
c'était prévu.
T'as pas du tout fait bravo avec les fesses, non, pas du tout.
Non, mais j'étais à un mariage. J'ai pas vu le match.
Donc t'as fait bravo avec les fesses.
Oui, j'ai fait bravo quand même.
Merci au Racing Club de Lens sur le dernier journée à la Baie des Champs face à la GIA.
La saison dernière, tu fais nul de 2 contre Ajaccio, on est emmené 2-0, tu fais un nul dégueulasse contre 3 qui était à la ramasse.
Strasbourg.
Et ça me fait penser
et
à ça.
3, c'est,
et
3, en plus, c'est un peu le match de Clermont, je trouve.
Oui, sauf qu'en plus, t'avais pris un point.
Ouais,
et là, tu le prends même pas. Mm-hmm. C'est Nicolas Palois qui disait, ce match-là, si tu peux pas le gagner, c'est au moins de pas le perdre. Et c'est vrai que là, tu fais un surplace total et t'es
dégueulasse à Metz. Voilà, avec Pierre Aristouille d'ailleurs.
Ouais.
T'avais fait un super
juste
match
une chose, et là tu vas pouvoir m'aider. Fin de championnat, calendrier très compliqué pour les Canaries. Donc effectivement, s'il y a une défaite à Reims.
Tu finis à Monaco dernière journée.
Voilà, exact. Je crois qu'il y a Lille peu de temps avant.
Lille, ouais.
S'il y a défaite à Reims, si t'enchaînais sur une défaite contre Lens, franchement, oui. Je pense que la direction est capable, surtout que Jocelyn
Gourvennec.
De faire
une Domènech, hein, c'est-à-dire un entraîneur qui
Gourvennec,
reste moins
il
de 10
a
matchs.
Un contrat jusqu'à la fin de la saison et il a plus sain s'il y a maintien. Donc, même s'il a un bon salaire, Jocelyn Gourvennec, je pense que Valdemar Quitan n'hésitera
pas. Après, tu vas avoir des matchs qui vont être du coup capitaux, encore comme clairement des matchs à forcément gagner. Mais bon, Reims, c'est compliqué, Lens, c'est compliqué, on l'a dit. Mais tu vas à Toulouse, là, tu vas être obligé de prendre des points et tu vas à Lorient.
Je savais qu'en le branchant sur le calendrier,
et il y avait Metz. Février, ouais. Et tu reçois Metz. Ouais.
Stop, on s'arrête là.
Voilà. C'est Marseille.
Cette séquence-là, Lorient et Metz, on en reparle. Si ça se passe pas bien, là, moi je dis que
écoutez
c'est à ce moment-là.
Tout le monde retient. Vous retenez ce que dit Simon.
C'est à ce moment-là que ça peut partir en sucette. Voilà. Les 3 dernières rencontres, puisqu'on est sur le calendrier du championnat, David, c'est important ce que tu as dit. Nantes ira à Brest, qui cartonne cette année, reçoit Lille.
Donc tu prends mon petit passage calendrier.
Et finit à Monaco.
Ok,
super. Tu as intérêt d'avoir des points avant de jouer ces 3 dernières équipes-là qui auront toutes. Je pense que Brest sera encore dans la course
Rennes
peut-être
avant.
Pour l'Europe.
T'aurais eu Montpellier et Rennes avant, ce qui est pas mal
voilà.
Non plus.
Bon, en tout cas, évidemment, tout le monde fait peur maintenant, puisque Nantes n'arrive à battre personne. C'est une certitude.
Pardon, Simon, tu dis n'arrive à battre personne, c'est quand même une victoire en 9 matchs, Nantes.
Oui, il l'a dit tout à l'heure.
Il faut que tu ailles écouter le podcast. Hein,
oui, t'avais dit un seul match nul.
On termine cette séquence sur Jocelyn Gourvennec, mais la pression est là et elle est déjà terrible. Le mercato, pour finir, ce mois de janvier, c'est encore une possibilité pour Nantes de se renforcer. Un énième renfort, pour qui, pourquoi ? Deux attaquants sont arrivés. Écoutez Jocelyn Gourvennec sur ce mercato.
On va en rediscuter. On a bougé les lignes déjà. On a recruté deux attaquants pour redynamiser ce secteur-là. Et puis redonner de l'oxygène et de l'énergie aussi au groupe, c'est important. On est dans la réflexion, on a besoin de plus de performance, et là c'est valable pour tout le monde. Alors on a aussi intégré beaucoup de jeunes au stage et c'était très bien de les voir en situation, il y a beaucoup de qualité. Après il faut que les conditions soient réunies aussi pour les lancer, il ne s'agit pas de les envoyer au feu bêtement. Dire on met des jeunes, on fait jouer des jeunes, mais sans réflexion, et il faut que ce soit aussi le bon moment. Voilà, donc on est en réflexion pour tout ça et pour améliorer l'équipe.
Au FC Nantes, depuis des années, c'est rarement le bon moment. Pour les jeunes, hein, si on
mais
l'attend.
C'est jamais le bon moment.
C'est jamais. Non, mais c'est vrai.
Non, mais c'est vrai que quand tu vois les situations.
Quand ça gagne, c'est pas la peine. Et quand ça perd, c'est trop dur.
Typiquement, ils vont en stage, ils emmènent 5 jeunes. Si tu mènes 2 buts, ce qui aurait dû être logique face à Clermont, t'as le droit de faire rentrer un jeune. Sauf que là, t'es mené. Enfin, t'es à partout, il t'est à 10. Tu vois. D'ailleurs, petite parenthèse, Ablin devait rentrer au moment où Benny Traoré prend le carton rouge.
Et tu fais rentrer Jean-Kévin Duverne en défense avec le succès.
Ça a bien marché d'ailleurs.
Voilà, que l'on... Sur le mercato, est-ce que ça peut encore bouger ? Oui. Quels sont les dossiers prioritaires ? Il y a des joueurs qui vont partir, David.
Bah oui, les joueurs qui sont sur le départ, c'est Jaouen Adjam. Alors, il a failli signer hier au Standard de Liège. Finalement, alors qu'il allait signer, il avait passé la visite médicale. Il n'y a pas eu de gros soucis, la visite médicale qu'on a pu lire un peu sur les réseaux. C'est juste qu'il a eu un appel des Young Boys de Berne.
Ouais.
Donc ça l'a fait réfléchir.
Ouais. Ah, en Suisse.
Sachant que le FC Nantes maintenant réclame un transfert pour Jaouen Adjam. Il était plutôt d'un prêt avec option d'achat, notamment du côté du
Standard.
Du Standard et même avant du PFC. Il y a l'OM qui est venu aussi au renseignement ces derniers jours.
Ouais. Si les dirigeants de l'OM nous écoutent, d'ailleurs, excellent joueur, allez-y.
Ouais, franchement, il faut y aller. C'est... Ouais, et puis il faut mettre 6 ou 7 hein, millions, hein, faut pas hésiter. Et puis sinon, Pierre Gabriel, alors ce matin on disait que pour l'instant c'était très très calme, en tout cas pour l'instant, lui aussi sur le départ. 111, le seul club qui s'intéresse à 111, c'est Lorient, et là encore, la direction du FC Nantes veut un transfert, et là il en veut 6 millions, et c'est pas une blague.
Ça on l'avait dit la semaine dernière.
Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
En fonction de ces départs-là, et notamment de ces défenseurs, Pierre Gabriel, 111, Nantes pourrait recruter. Ça bouge pas. Il y a encore cette volonté chez les dirigeants nantais de bétonner, d'essayer de trouver un défenseur supplémentaire.
Je ne sais pas où ça en est, du tout.
Et bah c'est en stand-by sur le départ des latéraux.
Voilà. Ah ben moi, on m'avait dit qu'il pourrait peut-être rentrer, enfin, il pourrait faire Kelvin Amiens avant des départs.
Moi, j'imagine Jaouen Adjam en train de commencer à paraffer son contrat avec les Young Boys de Berne, et qui reçoit un coup de fil
qui le fait réfléchir.
Des Glasgow Rangers, par exemple. J'en sais rien.
Et qui le fait réfléchir.
Attendez, ouais. Ça me fait réfléchir.
Et au 31 janvier, il sera chez nous. Il n'aura trouvé personne. Après, on n'arrête pas de le dire, c'est que pour moi, on a quand même beaucoup, beaucoup de joueurs, mais on a un effectif qui est déséquilibré. Moi, je trouve ça épatant qu'on n'arrive pas à mettre des joueurs à leur poste. Hein. On parlait de Florent Mollet, tantôt ailier, tantôt attaquant. On parle de Chirivella à droite, on parle de défenseurs centraux sur les côtés, de Coco qui est un ailier qui joue latéral. On a une équipe quand même sacrément déséquilibrée. Hein. Ouais, et qu'est-ce qui va se passer quand, ce que je disais tout à l'heure, Moses Simon, Mostafa Mohamed vont revenir de la CAN?
C'est le constat qu'a fait Jocelyn Gourvennec sur ce mercato. Là aussi, on l'avait
pas lui donner tort.
Évoqué la semaine dernière.
Oui, il y avait une petite piste pour Adjam, c'est vrai. Il y a Frosinone aussi en Italie qui est très intéressé. Tu connais?
Non, je vois que tu réagis à Frosinone. Frosinone, oui, pourquoi pas.
Pourquoi pas,
j'ai très intéressé par Adjam.
Il a fait un appel qui l'a fait réfléchir.
Allez messieurs, on parle de ce Nantes-Laval.
David Philippot, Pierre Arnaud Barre, Simon Rongoat, Loïc Folio. Sans contrôle.
L'actu. L'actu des Canaries a une touche de balle.
Pas besoin de traverser l'Hexagone en l'occurrence pour affronter le stade Lavallois, Nantes-Laval, samedi, 16e de finale de Coupe de France pour se refaire une santé, voire une épopée. Hein. On y a pris goût à cette Coupe de France depuis 2 ans. Ce sera avec ou sans Rémi Descamps dans le but. Le mercato aura-t-il bougé d'ici là? On va évoquer l'adversaire, le stade Lavallois, avec un expert des tangos, messieurs.
Alors David,
non, je dis rien.
Je peux rien dire, j'ai vu aussi, puis je les connais bien.
C'est un groupe Lavallois.
Oui.
À Archimède.
Archimède, bravo.
Ouais, toi aussi, t'as regardé, je suis sûr. Non.
C'est la famille Boinard.
Bravo à Loïc pour son fair play, c'est le seul à ne pas tricher dans cette émission.
Il y a un frangin qui est confrère chez nous au Corée de l'Ouest.
Très bien. Excellente
année. Sébastien Boinard, qui est le frère des frères Boinard, Archimède.
Archimède, okay. Fan du stade Lavallois.
Okay, okay.
Excellent groupe de rock.
Merci, papa. Info que tu es en mesure de me confirmer ou pas, David?
Excellent.
Excellent. Il faut que tu le dises, ça. C'est...
Comment on aborde ce match côté Canaries, messieurs? Pape, tiens, on va commencer avec toi. Dans quel état d'esprit? On se souvient que la victoire à Pau avait été comme un signe d'une nouvelle année qui commence, un nouvel état d'esprit. Une victoire, ça fait toujours du bien, blablabla. Bla, bla, et puis, pam! Défaite face à Clermont. Ouais. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à jouer en Coupe de France pour réussir ensuite en championnat, selon toi?
Bah de toute façon, tu peux pas galvauder ce match quand tu es sur une série aussi moche depuis, ce que je disais, 9 matchs en championnat et 4 matchs de suite en Ligue 1. Tu es obligé de prendre ce que tu peux comme victoire, et surtout à domicile. Surtout à domicile, tu dois te rattraper. Tu sors d'une prestation catastrophique contre Clermont, tu es obligé de faire quelque chose contre Laval. Et ça peut t'apporter... Jocelyn Gourvennec n'arrête pas de parler d'oxygéner le groupe, ouais, d'oxygéner les têtes. Bah, si tu gagnes en coupe, tu peux t'oxygéner un peu les têtes. Et surtout, si tu gagnes pas, tu peux te la plomber sacrément.
Avec la possibilité de faire des essais aussi, peut-être, parce qu'il est encore en train de tâtonner. Donc voilà, il faut essayer de confirmer des choix pour le coach Gourvennec.
Tu ne sors pas d'une prestation catastrophique, mais d'un résultat catastrophique. Et je pense que tu, au contraire, face à Laval, il faut essayer d'être dans la progression, évidemment, mais plutôt dans la continuité de ce qu'on a vu sur Clermont, avec évidemment cet impératif de gommer. On le dit à chaque fois, hein, ces errances défensives et puis ce manque de détermination, moi je trouve quand même dans la zone de vérité sur le plan offensif.
Oui, on peut se refaire à la cerise offensivement, ouais. Comme ça avait été le cas face à Pau. Avec Descamps dans le but ou pas, David? Est-ce que vous avez une info là-dessus, messieurs? Rémi Descamps qui n'a pas été choisi à Pau, c'est Lafond qui a joué à Pau.
J'y crois pas. Il a décidé de faire jouer les meilleurs et donc Lafond en coupe à Pau. Pour se rassurer, pour bien lancer l'année. Et là, tu sors d'une défaite à Clermont.
Oui, et puis sur un match, peut-être, bah, moi je trouve, où Lafond a été pas décisif, un peu hésitant. Si tu sors Lafond, je suis pas sûr que tu lui envoies un message très sympathique. Moi, je pense qu'il va laisser Lafond.
Descamps, il est perdu pour la cause.
Oui, de toute façon, il est en fin de contrat.
Alors, il est en fin de contrat, on s'en fiche. Dans l'ambiance de groupe, ça peut jouer. Parce que le mec, il va faire la tronche jusqu'au mois de juin.
C'est pas le
genre. Donc, il fait quand même un intérim plus qu'honorable. Je sais pas si vous vous en souvenez au mois de septembre.
Bah oui.
Bon. Et il n'a même pas les miettes de la coupe.
On met pas du tout en cause ses performances. Après, tu nous demandes pas si nous, on ferait jouer Descamps.
Oui, mais moi, je m'en étonne.
Qu'est-ce que tu ferais, toi qui es plutôt un bon technicien?
Oui, toi qui es un technicien.
Moi, je ferais jouer Descamps parce que je ferais jouer le deuxième gardien pour la coupe. Pour le maintenir concerné, et parce que effectivement, pour quelque part, pour service rendu, parce qu'il a pas déconné, et en plus il est bon sur le tir.
Est-ce qu'on peut imaginer un départ de Descamps là?
Et t'as vu qu'il tique pas du tout quand tu lui dis toi qui es un bon technicien?
Non, il va sûr de lui,
il est à l'aise.
Je dis à chaque intervention,
est-ce qu'on
ne suis
peut
pas technicien,
que Descamps demande à partir au mercato d'hiver là pour avoir du temps de jeu, parce qu'il s'aperçoit que c'est bouché pour le tir?
Bah, il peut avoir envie de partir et tu mets un jeune sur le banc.
Il peut pas être prêt puisqu'il reste 6 mois, je suis pas sûr que tu puisses.
Non, c'est transfert pour aller.
Mais transfert où tu le laisses libre.
Tu peux être libéré. Oui. Voilà, tu peux être libéré.
7 millions comme.
Allez, à la découverte de l'adversaire, le Stade Lavallois, avec Cyprien Eugène, notre copain et confrère d'Oxygène Radio. Bonjour Cyprien.
Salut les gars, salut Simon, bonjour à tous.
Alors dans quel état d'esprit arrive le Stade Lavallois au Stade de la Beaujoire samedi?
Dans l'état d'esprit qu'il y a tout à gagner en Coupe de France et qu'il n'y a surtout pas de choses à perdre. C'est plutôt Nantes, finalement, double finaliste qui a tout à perdre. Laval a tout à gagner. Dans un état d'esprit où on regrette un peu de ne pas jouer à domicile, le tirage a fait un petit peu tiquer de ne pas être à domicile. Mais maintenant, ils se disent on va être dans une Beaujoire avec une grosse ambiance. C'est à nous de faire le truc. Laval a montré qu'ils avaient les qualités pour embêter pas mal d'équipes cette saison, en s'appuyant sur une grosse base défensive notamment. Donc il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas embêter ce FC Nantes qui, il faut le dire, n'est pas non plus au top de sa forme avec quelques absents. Donc Laval a largement quelque chose à faire et les joueurs pour embêter cette équipe de Nantes.
Et du côté de Laval, là, c'est considéré comment? C'est un gros derby d'affronter le voisin nantais? C'est le match de l'année ou quoi?
Ouais, alors, j'ose pas employer le mot derby parce que ça fait grand débat, est-ce que c'est un derby ou pas. Mais en tout cas, c'est un affrontement. En fait, c'est comme je te disais, le fait de jouer à Nantes, ça embête beaucoup de monde et les supporters et les joueurs. Même Olivier Frappoli, le capitaine Jimmy Roy, il a dit que c'est la grosse déception d'aller à Nantes. Moi, je pense aussi, ils le diront pas, mais ça fait moins rêver de jouer le FC Nantes que de se dire, bah, on va aller jouer au PSG. Donc, c'est pris comme un match de coupe. On se dit pas que c'est le match de l'année, je pense, loin de là. C'est un match très important parce que la Coupe de France, c'est un objectif important cette saison où Laval a envie de performer et surtout de recevoir une Ligue 1 domicile. Olivier Frappoli, pour l'instant, il a reçu, depuis qu'il est en poste, donc depuis 4 ans et demi, il a reçu qu'une fois à domicile, c'était Le Mans. On les avait éliminés au tir au but. Donc Laval, l'objectif, c'est surtout de passer Nantes pour avoir un choc à Le Basser. Mais oui, évidemment, ça reste une grosse affiche parce que c'est Nantes, parce que c'est pas loin, parce qu'il y a plus de 1000 supporters qui vont faire le déplacement, au moins en parkage. Donc il y aura aussi du monde. Dans les tribunes, j'imagine qu'achèteront des billets un peu plus indépendants. Mais oui, pour l'instant, jusque-là, c'est le match de l'année. Mais on se dit qu'on veut aller plus loin et connaître d'autres matchs plus importants aussi. Et le tirage, il est vu comme... on joue Nantes, qui est une équipe aujourd'hui qui est, faut le dire malheureusement, qui est un petit peu ventre mou de Ligue 1. Et on se dit que, faut passer. Ça reste une belle affiche, mais c'est pas ce que le public lavallois espérait, quoi.
Bon, vas-y Loïc. On rappelle quand même que Cyprien est fan de Bridge and Dilu, quand même, qui n'a pas particulièrement brillé, en tout cas ici sur les bords de l'Erne. Mais tu suis bien, tu connais parfaitement ce stade lavallois, qui était un peu le tube de l'été là en Ligue 2 en début de saison sur la première partie, et qui est un tout petit peu rentré dans le rang, mais qui reste sur un match nul un peu frustrant aussi à Geoffroy Guichard.
Ouais, c'est ça, c'est une équipe. Alors la petite parenthèse sur Bridge and Dilu, j'aimerais renier mon passé parce que c'est pas forcément glorieux d'avoir adulé à ce point et d'avoir collé des affiches de
Bridge and Dilu
dans la rédaction, mais il a pas eu la carrière que je lui avais prêtée. Mais ouais, pour le stade Lavallois, t'as fait un gros coup de moins bien même en décembre, parce que tu fais un très gros mois, t'arrives premier en décembre, malheureusement ça dure pas, mais t'es troisième ex aequo à la trêve, tout le monde aurait signé pour ça. Et puis, il y a ce match à Saint-Etienne. Alors, pour ceux qui l'auront vu, je pense que si Laval repart avec les 3 points à Saint-Etienne, il n'y a absolument rien à dire. Laval a fait un gros match et Laval a fait du Laval, c'est-à-dire très fort défensivement, se projette très vite vers l'avant. Et par contre, il y a toujours ce petit manque à la finition. L'attaquant phare, c'est Malik Tchokounté. Il a plus marqué depuis le 7 octobre. Il est à la recherche du but, du déclic. Alors, évidemment, tous les supporters lavallois espèrent que ça arrivera à la Beaujoire, mais... voilà, pour le moment, c'est juste dans le jeu, il y a des bonnes choses, c'est une équipe qui va vite en transition, qui défend bien, mais il manque toujours ce petit truc à la finition qui, là, pour le coup, face à Nantes, eh bien, faudra punir pour pouvoir être performant et pouvoir se mettre devant. T'auras pas les occasions que t'as eues à Saint-Etienne et une équipe de Saint-Etienne qui loupe aussi pas mal d'occasions, quoi.
Après, Laval a déjà affronté deux fois le FC Nantes et s'est imposé deux fois, donc jamais 203, non, du côté des Tangos.
C'est ce qu'il faut se dire. Après, c'était en amical, donc il faudra voir ce que ça vaut et des équipes remaniées et pas forcément.
C'est sympa
la question. C'est la meilleure question du podcast.
Attends, parce qu'on va peut-être. Ok, non, alors on va expliquer les coulisses. David devait poser une question et David a dit j'ai absolument rien à demander.
Mais non,
à
mais non, parce que je n'aime pas ma question.
Je n'aime pas en plus.
En revanche, j'ai souvenir d'un match de Laval en Coupe de la Ligue ou Coupe de France et une victoire 4-0 de la Ligue.
Mais je suis pas
4-0 avec un but de Bangoura.
Absolument.
Oui, que les vieux journalistes qui se souviennent de ça.
Mais non, Nantes en coupe, c'est toujours imposé contre Laval en coupe. Et pour la petite anecdote, Nantes joue Laval tous les 10 ans en 32e en 16e de finale de coupe. C'était deux fois en Coupe de la Ligue il y a 10 ans et il y a 20 ans.
Pierre Arnaud Stat, énorme.
Eh oui, alors on se moque de la question.
Il est énorme, mais c'est beaucoup mieux. Franchement, c'est beaucoup mieux que jamais 203.
Ils se sont affrontés une seule fois en Coupe de France et c'était un match au Mans, sur terrain neutre, remporté 3-2 par le FC Nantes.
Cyprien, tu as parlé de l'enthousiasme des Mayennais, des supporters, des amateurs de foot. Ils seront plus d'un millier en parkage et certainement plein d'autres à la Beaujoire. Il y a quand même quelque chose qui se passe autour de ce match-là. Les Lavallois ne se déplacent pas.
Il a dit qu'il n'y avait que Paris, que aller au Parc des Princes.
Les supporters lavallois ne sont pas un millier à l'extérieur en Ligue 2.
Il a surtout dit que les Lavallois ne veulent pas quitter le Basser. Toi, tu as dit vous voulez jouer à domicile. L'extérieur, on ne veut pas.
C'est ça, voilà. Merci Pierre Arnaud de pouvoir rectifier mes propos.
On quitte jamais la Mayenne.
Et l'effervescence, sinon, l'effervescence, elle est là quand même. Tu nous parles de plus d'un millier de supporters.
L'effervescence, elle est là depuis. En fait, depuis la remontée du club de National en Ligue 2, il y a quelque chose qui est né. Le maintien à la dernière seconde l'année dernière, la ferveur est encore plus forte. Le Basser est souvent un guichet fermé. Là, tu t'offres un truc en Coupe de France. Tu vas jouer le FC Nantes, bien sûr. Personne galvaude cette affiche. Je disais évidemment, tout le monde aurait préféré à domicile, mais personne ne crache sur un duel face au FC Nantes. C'est proche, t'es à 1h30, 2h maximum de la Mayenne. Donc non, il y a vraiment un truc. Je crois qu'ils ont rempli plus de 5 bus en une journée et demie à peine. Tout le monde est à fond et tout le monde est pressé de voir cette affiche. Et ouais, il y aura, je pense, pas loin de 1500 supporters Lavallois en tribune. Donc non, tout ça fait rêver tout le monde. Et ça fait surtout rêver parce que tout le monde se dit qu'avec cette équipe qui est tellement forte, qui a arraché ce maintien, qui est montée avec des mecs qui mouillent le maillot, parce que Laval, ce que veulent les gens, c'est pas forcément tout gagner, et on sait que c'est pas la force de Laval, mais c'est surtout des gars qui mouillent le maillot. On connaît Jimmy Roy et Anthony Gonsalves, pour nommer que eux. Et du coup, bah, c'est des joueurs à qui les supporters s'attachent. Et du coup, bah, forcément, il y a une effervescence qui naît à travers ça. C'est un public très proche des joueurs et des joueurs très proches de leur public. Donc, d'une force commune, ils vont essayer ouais, de faire un truc à la Beaujoire. Et pour Laval, c'est pas tous les ans que tu fais une aventure en Coupe de France. Donc, ça renforce le truc. Pour rappel, Laval, l'année dernière, s'est éliminé au premier tour par Orvault, qui joue en R1. Donc forcément, ça fait rêver de jouer face au FC Nantes. Ouais.
Au tir au but.
Merci beaucoup, Cyprien.
On va mettre une pièce sur Laval.
Ouais, dis donc, tu fais flipper tout le monde.
Non,
ouais.
Moi, je mets pas de pièce parce que Laval, il joue bien qu'à domicile.
Ouais. Cyprien, on se retrouve samedi à la Beaujoire.
Avec grand plaisir, les gars. Merci à vous,
Cyprien.
Salut, Cyprien.
Salut. La Tribune Noire sera là, hein, parce qu'on n'a pas eu de Tribune Noire quand même face à Clermont. L'ambiance va revenir en Loire. Quel scandale, on l'a dit, hein, que la Ligue est ainsi fermée, le poumon de la Beaujoire sur le match de championnat. Eh ben, on se retrouve, les copains, pour débriefer ce match-là mardi prochain. N'oubliez pas, podcast spécial exceptionnel Emiliano Sala, 5 ans après sa disparition. On publie ça jeudi soir. Soyez au rendez-vous sur toutes les plateformes. Et nous, on se dit à mardi pour débriefer le match de Laval. Salut les gars.
Salut.
Salut, à plus.
Salut.
Sans contrôle, le podcast 100% digital.
Proposé par les rédactions de Ouest France, Presse Océan et It West.